L'histoire d'Israël, j'avais oublié qu'on avait terminé sur l'histoire de l'Église, mais donc on repart sur l'histoire de l'Église, mais ça ne fait rien. Alors, on entame un nouveau chapitre d'histoire de l'Église aujourd'hui, c'est l'histoire de l'Église catholique au XXe siècle. L'histoire de l'Église catholique au XXe siècle n'est pas une des plus glorieuses, comme vous allez vous en rendre compte. En gros, si vous voulez, il y a deux époques dans cette histoire qui se partagent grosso modo les deux demi-siècles. C'est-à-dire une première partie qui va du début du siècle jusqu'aux années 50, si vous voulez, l'immédiate après-guerre mondiale, et puis une autre partie qui commence à peu près vers ces années-là, au début des années 50, jusqu'à la fin du siècle, et qui culmine évidemment avec Vatican II et ses conséquences. Et là, nous avons affaire à un tournant capital, justement, de l'histoire catholique, mais dont on peut se demander si, finalement, il était si bénéfique que ça, quand on en fait le bilan, justement, à la fin du siècle. Donc, nous allons d'abord voir la première partie du siècle, le premier demi-siècle, donc, qui commence après des événements qui sont mitigés pour l'Église catholique. L'Église catholique, à la fin du XIXe siècle, s'est redressée considérablement sur le plan spirituel quant à son autorité. Elle est forte et bien, comment dirais-je, bien en ordre de bataille. Elle vient de remporter un grand succès en Prusse contre le chancelier Bismarck, le fameux Kulturkampf. On en a parlé, je crois, c'est-à-dire le combat contre l'obscurantisme et pour la culture. C'était comme ça que le définissait Bismarck. Et c'est-à-dire, c'était une lutte tout simplement anticléricale et surtout anticatholique. Bismarck, qui avait une vue très centralisée de l'État prussien, vous voyez, dont l'Église catholique centralisait elle aussi un ennemi redoutable qu'il fallait abattre. Et finalement, malgré le serment qu'il avait fait qu'il n'irait pas à Canossa, vous vous souvenez, Canossa, quand l'empereur Henri IV était allé demander pardon en chemise, les pieds nus, resté plusieurs heures à demander le pardon dans la neige, devant le monastère de Canossa où s'était réfugié le pape, une humiliation suprême au moment de la fameuse querelle des papes et des empereurs, eh bien, Bismarck avait juré qu'il n'irait jamais à Canossa. En fait, il était allé à Canossa, lui aussi. Il avait dû baisser pavillon devant l'Église catholique et abolir le Kulturkampf. Donc, l'Église catholique sort renforcée à la fin du 19e de cette affaire, notamment. Pourtant, il y a un certain nombre de points noirs. Le premier, c'est l'unité italienne, qui a mis fin à l'existence des États pontificaux, et notamment la souveraineté du pape sur la ville de Rome. Et cette perte de son pouvoir temporel, la papauté ne l'a jamais accepté. Et depuis cette date fatidique de l'entrée des troupes de Garibaldi à Rome, le pape et les papes qui lui ont succédé se considèrent comme prisonniers à Rome. Et le pape, la papauté, disons d'une manière générale, réclame à corps et à cri la reconstitution d'un État pontifical. Et tout le début, les 30 premières années du siècle vont être consacrées par la papauté à ce combat pour récupérer un pouvoir temporel, qui est absolument indispensable à la théologie catholique. Deuxième point noir, c'est celui qui correspond d'ailleurs un petit peu à cette situation. Car finalement, la prise de Rome et la perte du pouvoir temporel de la papauté résultent de ce que l'Église catholique de l'époque appelle du nom global de modernisme. À la fin du XIXe siècle, l'Église catholique est une des principales puissances conservatrices en Europe. Réactionnaire, très traditionnaliste et qui refuse en bloc tout ce que les idées nouvelles ont apporté depuis le XVIIIe siècle. Alors, dans tous les domaines. Dans le domaine politique, la papauté est une monarchie absolue, à l'image des monarchies européennes, justement jusqu'au XVIIIe, XIXe. Et elle voit dans la démocratie, l'idéal démocratique, dans le libéralisme qui l'accompagne, un ferment dangereux de dissolution, non seulement de son pouvoir, mais également de la foi en général. Ce en quoi, d'ailleurs, elle n'a pas tout à fait tort, comme justement la situation actuelle l'a montré. À partir du moment où l'Église catholique a adopté les idées libérales, justement ce qui sera le cas au tournant du siècle, c'est pour ça que je divise l'histoire de l'Église catholique au XXe siècle dans ces deux parties, c'est qu'après 1950, justement, l'Église catholique va s'ouvrir aux idées libérales, eh bien, ça va consommer sa perte. Et finalement, ceux qui avaient refusé le modernisme, d'un point de vue catholique s'entend, bien sûr, ici je ne me place pas de manière absolue, mais d'un point de vue catholique, n'avaient pas tout à fait tort. Donc, refus de tout ce qui est idée moderne, et parmi les pays les plus dangereux dans ce domaine-là, on trouve la France, du point de vue catholique, dans la mesure où la France est le pays de la Révolution française, de Napoléon. Le souvenir de la prise de Rome par Napoléon est encore vivace, l'emprisonnement du pape Pie VII, etc. Et la papauté a un œil fixé sur la France. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, la papauté s'efforce de reprendre en main d'une main de fer l'épiscopat français. L'épiscopat français a toujours été, depuis Louis XIV notamment, et depuis le jansénisme, déchiré, partagé entre le courant gallican, qui était représenté par Bossuet, vous vous en souvenez, à l'époque de Louis XIV, c'est-à-dire un catholicisme beaucoup plus national, moins inféodé à Rome, plus indépendant, sans être totalement coupé de Rome, mais enfin une certaine protestantisation du catholicisme français. Et le courant janséniste poussait à fond dans cette direction-là. Et puis, ce qu'on appelait le courant ultramontain, au-delà des monts, c'est-à-dire les monts, c'est les Alpes, bien sûr, qui, lui, était inféodé à Rome d'une manière totale. Pendant toute la durée du XVIIIe siècle, et aussi une bonne partie du XIXe siècle, les deux courants en France se sont affrontés au sein de l'épiscopat, entre le courant gallican et le courant ultramontain. Finalement, à la fin du XIXe siècle, dans la mouvance du Kulturkampf, c'est le courant ultramontain qui l'emporte. Et au début du XXe, l'épiscopat français est dans son immense majorité de tendance ultramontaine. C'est-à-dire que la papauté peut compter sur l'épiscopat pour adopter face à l'État français le point de vue de Rome. Donc c'est une force. La France, pays suspect par-dessus tous, parce que c'est de lui que viennent les idées subversives. Finalement, ces idées subversives, on les trouve un peu partout. Et ces idées subversives, elles sont non seulement dans le domaine politique, disons d'une manière générale, des mœurs, de la vie courante, la laïcisation de la société, finalement, que l'Église catholique rejette et refuse à fond, finalement, c'est ça. C'est la laïcisation de la société qu'elle rejette. Mais aussi, il y a ensuite le domaine, on dirait, beaucoup plus idéologique et théologique, n'est-ce pas ? Les progrès de la science qui remettent en question un certain nombre de dogmes fondamentaux bibliques et catholiques sur la création, par exemple, avec le darwinisme. Bon, si vous voulez, c'est un petit peu la poursuite de la, du pro, des problèmes de Galilée. C'est la même mouvance, en quelque sorte. On rejette justement les avancées de la science dans la mesure où elles remettent en question, ou elles semblent remettre en question, en tout cas, les points forts de la foi. Et les papes de cette époque-là vont condamner d'une manière sans appel tous les progrès qui sont faits dans ces domaines-là. Et puis aussi, bien sûr, dans le domaine des sciences bibliques. Et là, les regards de Rome se tournent plus vers l'Allemagne. L'Allemagne où les théologiens protestants, vous savez, ont déjà depuis le début du 19e, mis en question, par exemple, l'unité du Pentateuque, finalement l'inspiration des Écritures elle-même est battue en brèche dans les milieux protestants, c'est ce qu'on appelle le courant libéral. On en a parlé, j'y reviens pas, qui culminera ici donc avec le bultmannisme, enfin tout ce qu'on a étudié l'an dernier. Jusque maintenant, l'Église catholique a été relativement épargnée par ce courant libéral sur le plan théologique. À la fin du 19e et surtout début du 20e siècle, il y a un certain nombre de clercs et de laïcs qui sont séduits justement par le libéralisme théologique protestant. Et tout un courant que l'on appellera moderniste, hein, va se dessiner au sein de l'Église catholique au début du XXe siècle. Bon, ce qu'on appelle modernisme, sur le plan théologique, c'est le pendant catholique du libéralisme protestant. On appelle ça libéralisme quand il s'agit du protestantisme, et on appelle ça modernisme quand il s'agit du catholicisme. Mais finalement, c'est exactement la même démarche, et c'est exactement le même courant. Ce courant moderniste est davantage d'ailleurs porté par les intellectuels catholiques laïcs que par le clergé. Et c'est une époque, le XXe siècle, qui va voir une floraison de grands penseurs catholiques dans toutes sortes de domaines. Sur le plan littéraire, citons par exemple Bernanos, Mauriac, Claudel, etc. J'avais déjà eu Chateaubriand un siècle plus tôt, etc. Bon, enfin, tout un ensemble de gens de très haut niveau, des académiciens, des scientifiques, toute une élite intellectuelle qui va être l'aile marchande du catholicisme. Et finalement, jusqà Vatican II, pratiquement, et même après, pourrait-on dire, jusque dans les années 70 du XXe siècle, les intellectuels catholiques vont être les troupes de choc, pourrait-on dire, du catholicisme, notamment contre le marxisme. Et jusque dans les années 70, il y a deux forces idéologiques qui s'opposent en Europe, le marxisme et le catholicisme. Ou le christianisme, disons de manière générale, mais enfin, essentiellement, c'est le catholicisme, sur le plan de la pensée. Et finalement, ou on est marxiste, ou on est chrétien. Pour la petite histoire, relisez Don Camillo et Pépone, l'auteur, là, j'ai comment il s'appelle, l'italien, si vous voulez caricaturer ce qui était justement la marque de l'Europe de ces années-là, quoi. Puis à partir des années 70, eh bien justement, ces intellectuels catholiques disparaissent ou n'ont plus le niveau, etc. Et puis finalement, avec Jean-François Revel, apparaît donc un troisième courant. Et Jean-François Revel écrit dans les années 70 un livre qui porte ce nom, « Ni Marx, ni Jésus ». Et c'est la fin justement de ce bipolarisme entre le marxisme, qui de toute façon aussi plus ou moins disparaît dans la tourmente du XXe siècle, et puis le catholicisme pour donner la place à une philosophie, la philosophie de Revel était finalement assez inconsistante, et qui est finalement celle qu'on trouve aujourd'hui comme étant le courant majoritaire dans nos pays. Donc, voyez-vous, nous assistons ici à une déliquescence de la puissance catholique. Et ce sont, au début du XXe siècle, ces intellectuels catholiques qui sont le plus séduits, justement, par la théologie libérale protestante et qui vont s'empoisonner, en quelque sorte, à ce contact. Et il faut dire aussi que le courant œcuménique, dont nous aurons l'occasion de reparler, qui prend son essor au milieu catholique à partir justement des années 50, bien qu'il soit né au milieu protestant à partir du début du siècle, on aura l'occasion de le voir, eh bien, va mettre en contact catholiques et protestants, et ce ne seront plus seulement les intellectuels qui seront touchés par le mouvement libéral, mais ce seront aussi les clercs au contact justement des théologiens protestants qui vont, si j'ose dire, leur inculquer leur venin. Donc, si vous voulez, voilà un petit peu comment se présente la situation au début du siècle. Au début du siècle, nous avons donc, dans les pays de vieille tradition catholique notamment, c'est-à-dire le sud de l'Europe, la France, l'Italie, évidemment, ce sont les deux principaux pays, le sud de l'Allemagne, qui est à majorité catholique, l'Autriche, l'Autriche-Hongrie, enfin tous les Balkans, la Croatie, bref, tous ces pays-là. À la fois, si vous voulez, une population qui s'est très fort ressaisie dans son catholicisme, et puis, au contraire, une population laïque qui, elle aussi, s'est considérablement durcie dans l'anticatholicisme. Donc, une situation qui est explosive. Même dans la péninsule ibérique, traditionnellement le bastion du catholicisme pur et dur, les idées nouvelles ont pénétré. Elles ont traversé les Pyrénées et on a au début du siècle le règne d'une reine, Marie-Christine, si je ne m'abuse, qui est particulièrement faible. Et alors les choses dérapent et on va assister donc en Espagne à des tentatives de pronunciamientos, de prise de pouvoir, par des gens qui sont marqués par les idées libérales européennes. Il y aura une première république qui va s'instaurer, qui sera de courte durée, et puis il y aura dans les années 20, après la dictature de Primo de Rivera, les années 30 très exactement, 1929 je crois, de l'institution de la république jusqu'en 1939, donc une république rouge qui va s'instaurer aussi en Espagne. Donc, la situation est explosive au début du siècle, même si l'Église catholique l'aborde en position de force. Et ce combat va être mené par des papes extrêmement énergiques à cette période-là. C'est ainsi que nous avons le pape de transition entre les deux siècles et le pape Léon XIII, 1878 à 1903, qui est un pape extrêmement énergique, un pape autoritaire, autocratique, dans la plus pure tradition d'un Innocent III, etc., et qui, d'une certaine manière, est l'homme de la situation pour le catholicisme à cette période-là. Léon XIII va lutter considérablement contre justement tous les aspects du modernisme que nous avons évoqués. C'est un homme aussi très habile sur le plan politique. Et il publie une encyclique qui s'appelle Rerum, De Rerum Novarum, ça veut dire au sujet des choses nouvelles, des nouveautés, donc du modernisme. Et là, il passe en revue justement tout ce que sont les dangers de l'Église qu'il condamne. Et alors sont condamnés pêle-mêle la démocratie, le libéralisme, la monarchie parlementaire qui s'est instaurée en Italie, le protestantisme, le judaïsme, enfin tout y passe quoi. Hein, là c'est il règle ses comptes avec tout le monde. Le règne de Léon XIII va être aussi marqué par deux autres aspects. D'une part, l'essor des missions. Nous sommes ici aussi en pleine période d'expansion missionnaire, tant dans le protestantisme que dans le catholicisme. Et Léon XIII va beaucoup militer pour l'expansion missionnaire du catholicisme dans le tiers-monde. Et puis aussi les questions sociales. Parmi les rerum novarum, comme disait le pape, les choses nouvelles qu'il s'agit de condamner, il y a bien entendu le socialisme. Le socialisme qui apparaît très vite, dès le XIXe siècle, comme la bête noire du catholicisme, qui va être condamné sans appel comme étant intrinsèquement pervers, donc diabolique, en quelque sorte, ça veut dire irréformable. Dans son essence, il est pervers, par conséquent, il n'y a pas d'accommodement possible avec lui. En fait, il y en aura avec Pie XII, on verra. Bon, enfin, n'anticipons pas. Et cependant, le pape Léon XIII est assez intelligent pour se rendre compte que la question sociale en Europe est un réel problème. Et qu'il s'agit donc d'éviter que les ouvriers, opprimés par les patrons, se tournent vers le socialisme et par le marxisme qui, aussi évidemment, fleurit à cette période-là. Et c'est la raison pour laquelle Léon XIII va élaborer une doctrine sociale de l'Église. Et cette doctrine sociale, il va essayer de la mettre en œuvre par des laïcs, justement, qui vont créer des actions catholiques diverses, n'est-ce pas, dans les pays dans lesquels ils se trouvent, n'est-ce pas, des mouvements de jeunesse. Bon, c'est ainsi que naîtra le scoutisme catholique, par exemple, les mouvements comme la jeunesse ouvrière catholique, jeunesse étudiante catholique, qu'est-ce qu'il y a encore, enfin bref, toutes sortes, une floraison de mouvements sociaux qui sont entre les mains de laïcs, mais de laïcs catholiques, de laïcs engagés, n'est-ce pas, supervisés évidemment par les évêques, c'est une chose évidente, mais qui ne dépendent en principe pas directement justement de la hiérarchie catholique. L'idée ne va pas réussir néanmoins à enrayer l'hémorragie qui frappe le catholicisme à cette période-là, en ce qui concerne les classes populaires. On peut dire que d'une certaine manière, c'est un échec. Bon, le pape suivant, c'est Pie X, qui, va régner donc de 1903 à 1914, qui sera canonisé, essentiellement justement parce que c'est un pape très réactionnaire, très traditionnaliste. Et il va se trouver confronté avec une crise, des crises majeures que l'Église catholique a connues dans toute son histoire et qui a pour théâtre la France. La France, où depuis la chute du deuxième Empire, de Napoléon III, règne, on pourrait dire, une république, la Troisième République, qui, petit à petit, d'abord était aux mains de monarchistes, avec Marc Mahontière et d'autres, on a pensé que ces gens-là préparaient, en fin de compte, sous le couvert d'une république, une restauration monarchique. Puis ensuite, les protestants, beaucoup de protestants sont entrés dans la carrière politique. On a pu dire que la troisième République était une république protestante. C'est un peu abusif, mais il y a eu beaucoup de ministres protestants, effectivement. Et jamais, à aucune période de l'histoire, le protestantisme n'a été mieux en cours que pendant la Troisième République. Évidemment, tout ça, pour un catholicisme préconciliaire, c'était très suspect déjà, de voir tant de protestants grenouillés là-dedans. Bon, là-dessus est intervenue l'affaire Dreyfus, la France cassée en deux entre les catholiques qui étaient antisémites et les libéraux qui ne l'étaient pas. Et finalement, le pouvoir finit par tomber entre les mains de ce qu'on appelait à cette époque-là un parti radical. Le parti radical, c'était un parti qui était très anti-clérical. Et au début du siècle, le parti radical entend mener justement une politique anticléricale et larguer les amarres avec Rome. La France, fille aînée de l'Église, c'est fini. Une véritable haine de la part justement des radicaux de non seulement du catholicisme, mais de toute foi et de l'Évangile en particulier, c'est pas ? Et le président du Conseil, comme on l'appelle à cette époque-là, c'est-à-dire ce qui correspond au Premier ministre aujourd'hui, qui s'appelle Combes, qu'on appelle le petit père Combe, parce qu'il est petit de taille, n'est-ce pas, décide de frapper un grand coup et de régler son compte une bonne fois pour toutes avec l'Église catholique. Lui a une approche évidemment totalement différente de celle des papes. Il estime que les progrès spectaculaires du XIXe siècle dans le domaine des sciences et des techniques ont porté un coup définitif à toute forme de religion, que la science a démontré que toute religion était fausse, quelle qu'elle soit, que finalement les masses s'étaient plus ou moins détachées aussi de la religion et qu'il était temps d'en finir, de laisser les quelques attardés qui croyaient encore à la religion pratiquer leur foi, parce que finalement on est quand même dans un régime démocratique et libéral, mais empêcher, faire des lois telles qu'elles empêcheraient qu'elles couperaient finalement tout avenir à la religion, c'est l'idée. Privatiser totalement la religion de telle manière qu'elle n'ait plus d'avenir devant elle, qu'elle ne puisse plus se transmettre. Voilà en gros, si vous voulez, ce qu'est l'objectif des radicaux. Bon, l'affaire est déjà en cours dès 1901, et déjà du côté du catholicisme, on s'inquiète parce qu'on a vu venir le vent. Et à Rome, Léon XIII a déjà, c'est les deux dernières années de son pontificat, mais il a déjà pris soin de placer des jalons justement pour la grande confrontation qui s'annonce. Et puis évidemment, le coup de tonnerre éclate en 1905 avec la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui est votée au Parlement français et qui prévoit que la République française ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. C'est la fin du concordat qui avait commencé avec Napoléon. Et les églises, les différentes églises qui sont donc toutes mises sur le même plan, sur le même pied d'égalité, ce que l'Église catholique ne saurait accepter, n'est-ce pas, ont quelques mois, je crois, pour s'organiser, pour s'autosuffire sur le plan financier, ce qui est une manière de les asphyxier, penser le petit père Combe, penser que jamais elle n'arriverait à s'autosuffire, et penser les asphyxier de cette manière-là, et puis de se démocratiser. Ça, c'est aussi le deuxième point. Et la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 prévoit que les églises doivent se constituer en associations cultuelles modelées sur le modèle des associations X ou Y dont le statut a été formulé 4 ans plus tôt, très exactement, en 1901, par la loi sur les associations. Les associations sont donc des rassemblements de personnes privées qui s'associent, comme le dit l'expression, pour militer pour un but X ou Y, et qui s'en donnent les moyens, financiers notamment, par des contributions, par des ventes, par toutes sortes de moyens, à condition que ce soit sans but lucratif, et qui, pour cela, élisent un conseil d'administration qui fonctionne sur le modèle de la démocratie française. Ça veut dire que tous les membres constituent en quelque sorte le suffrage universel qui élit un parlement, c'est-à-dire en l'occurrence un conseil d'administration, lequel parlement élit un exécutif, le bureau, un président, un vice-président, etc., qui est responsable devant le conseil de l'association, lequel conseil est responsable devant l'Assemblée générale, ça veut dire devant tous les citoyens. Donc c'est un décalque de la Constitution française, finalement, du modèle démocratique qui s'est instauré en Europe à cette période-là. Alors, les protestants et les juifs acceptent cette vision avec enthousiasme. Bon, pour les associations cultuelles, il y a quelques modifications, les associations cultuelles ont aussi ceci de particulier, c'est que la loi est extrêmement coercitive. Dans ce sens que elles ne peuvent avoir d'autre objet que la célébration du culte. Et leurs ressources ne peuvent être employées qu'à la célébration du culte, à l'exclusion de tout autre but. C'est-à-dire que pour parler concrètement, les ressources de l'association ne peuvent être employées que pour payer les prêtres et les pasteurs, les bedeaux, les sacristains, et puis entretenir les bâtiments, ou acheter des bâtiments, etc. Donc là, c'est très très restrictif, très très limitatif, et c'est une loi anticléricale, anti-religieuse, et non pas une loi pour l'apaisement. C'est une loi de combat. Le fait que les associations doivent pourvoir elles-mêmes à leurs propres besoins a pour but de les détruire, de les étouffer. Le fait qu'elles ne puissent avoir d'autre but que celui du culte implique qu'elles ne peuvent plus avoir d'école. Et ça va être aussi un casus belli terrible avec l'Église catholique. Ça veut dire qu'elles ne peuvent plus entretenir d'associations charitables, etc. Donc c'est vraiment privatiser totalement la religion et l'exclure du domaine public. Donc à terme la détruire, c'était le but. Bon, protestants et juifs, comme je disais tout à l'heure, acceptent avec enthousiasme, un enthousiasme un peu grand d'ailleurs, parce que ça correspond à leur ecclésiologie finalement, surtout au niveau protestant. Et la plupart des églises protestantes vont se calquer sur le modèle de la loi de 1905, sans même d'ailleurs chercher à savoir si ce modèle correspond au modèle biblique. Et finalement, par rattrapage, ils vont essayer de démontrer que ça correspond au modèle biblique. Bon, ça paraît extrêmement discutable. Mais enfin, voilà, donc si vous voulez... et les églises protestantes, dans leur enthousiasme, sans se rendre compte que c'est aussi une loi qui les vise, n'est-ce pas, vont aller jusqu'à spontanément remettre leurs écoles entre les mains de l'État. Ça, ce serait une des plus grandes erreurs qu'elles feront à cette période-là. Bon, les Juifs ont un petit peu moins d'enthousiasme, mais enfin, ça ne les dérange pas. Que ce soit ça ou que ce soit autre chose, bon, finalement. Leur devise est vivre et laisser vivre. Ils en ont tellement vu que, après tout, puisque c'est la loi, comme on dit en hébreu, « Chok Medina Chok », la loi du pays, c'est la loi. Bon, on s'y plie. Du côté catholique, c'est la levée de bouclier. C'est inacceptable. C'est inacceptable parce que c'est la destruction même du système catholique. Et on a évoqué tout à l'heure toutes les réserves, c'est un mot faible, qu'a la papauté vis-à-vis de la démocratie. Et voilà qu'on veut imposer à l'Église française le système démocratique. Si finalement la loi avait été appliquée à l'Église catholique, ça voulait dire que les paroisses échappaient totalement au contrôle des évêques. Parce que finalement, chaque paroisse, chaque communauté locale devient parfaitement autonome. Et n'a plus. C'est un système congrégationaliste qui est imposé par l'État, en quelque sorte. Et par conséquent, peut se passer totalement, justement, de la direction des évêques, et a fortiori, donc, de Rome. Ce qui était le but. Ce qui était le but du Père Comte. D'autre part. Un autre problème né, c'est celui des bâtiments religieux. Les bâtiments religieux deviennent propriété d'État. Ils cessent d'appartenir aux églises. Et les représentants de l'État sont mandatés par le gouvernement, au besoin avec l'appui de la force publique, pour inventorier les biens ecclésiastiques. Donc, c'est à nouveau 1792, quoi, hein, c'est les biens nationaux, quoi, en quelque sorte. Bon. Alors, la loi de 1905 prévoit que l'État, qui devient propriétaire, notamment évidemment des édifices religieux prestigieux tels que Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Chartres, etc., met gracieusement à la disposition des cultes reconnus les bâtiments en question, mais les cultes en question n'en sont plus propriétaires. Quant aux bâtiments qui n'ont pas de fonction de culte, eh bien, éventuellement, ils peuvent être expropriés. Et c'est là, évidemment, que le bât blesse. L'Église catholique en France a des propriétés foncières colossales et elle voit le moment où elle va en être dépouillée. Et finalement, cette question des inventaires, comme on les appellera, va être pire encore, à la limite, que la question justement des associations cultuelles. Alors, dès que la loi est votée, le pape Pie X interdit la création des associations culturelles. Tout prêtre ou tout évêque qui acceptera de se constituer en association culturelle est immédiatement excommunié par Rome. Et la République française dit tout prêtre ou tout évêque qui ne se pliera pas aux lois de la République peut se retrouver en prison. Donc c'est l'épreuve de force. Là, c'est l'épreuve de force. Et le symbole de cette épreuve de force va être justement les inventaires. L'Église catholique n'entend pas céder sur cette question-là. Et les inventaires deviennent l'occasion de véritables batailles rangées. L'État doit faire intervenir la force publique, qui se trouve confrontée avec le public catholique qui a été rameuté pour faire le coup de poing et pour empêcher justement que les inventaires ne se déroulent dans des conditions paisibles. Et c'est une véritable guerre de religion pratiquement qui éclate en France. Partout, il y a ces inventaires, notamment là où il y a des expropriations. Alors là, c'est la guerre ouverte. Alors évidemment, les relations entre Paris et Rome sont exécrables, au pire, n'est-ce pas ? Et on peut craindre le pire. Du côté protestant, on n'a pas le même scrupule parce qu'on a vu le parti intéressant qu'on pouvait tirer de l'affaire. À partir du moment où l'État devient propriétaire des bâtiments, s'il y a des réparations, c'est à lui qu'on envoie la note. Et c'est pourquoi les protestants acceptent les inventaires. En fin de compte, la loi de 1905 prévoit que tout ce qui est réparation extérieure est à charge de l'État et tout ce qui est réparation intérieure est à charge de la communauté locale. Donc ce n'est pas si clair que ça. D'autre part, il est entendu que tous les bâtiments qui seront construits après 1905 ne sont plus propriété d'État. L'État a compris qu'il avait fait une blague en mettant la main sur les biens ecclésiastiques parce que justement c'est lui qui va devoir casquer. Alors bon, fort de ça, et on décide que tout ce qui sera construit après 1905 ne sera plus propriété d'État. Bon. Alors finalement, le combat fait rage pendant quelque temps, et puis finalement, eh bien, le petit Père Kong, comme son collègue Bismarck quelques années plus tôt, vient aussi à Canossa. Finalement, un accord est conclu avec l'Église catholique sur les bases pour ce qui est des biens ecclésiastiques sur les bases de ce qu'on a dit. Sur le plan des associations culturelles, alors finalement, il y a une exception qui est faite à la loi de 1905 pour l'Église catholique, ce qui est amusant d'ailleurs, parce que l'Église catholique étant la plus importante Église de France, elle est l'exception, vous voyez. Les autres petites églises sont la règle. Bon. Alors finalement, on accepte que l'Église catholique se constitue non pas en association cultuelle, mais en association diocésaine. C'est-à-dire que l'association ne recouvre pas une paroisse locale, mais l'ensemble des paroisses qui sont dans un même évêché. Que les représentants laïcs, parce que ce sont des laïcs, qui forment ces associations cultuelles, n'ont pas un pouvoir de décision, que finalement le pouvoir de décision reste aux mains de l'évêque. Donc finalement, tout le monde y trouve. Tu veux dire quelque chose, Philippe ?
On y arrivera à ça, mais pas tout de suite, parce que en fait, c'est à partir entre 1921 et 1924 qu'elles vont constituer ces associations diocésaines.
Oui, c'est ça.
Il y aura un but juridique pour l'Église catholique.
Oui, c'est ça.
Entre 1906, application de la loi de 1905, ou plutôt non application pour l'Église catholique. Et en fin de compte, 1921-1924, alors ils vont trouver une solution intermédiaire pour ce qui est de l'usage des cultes, si on peut dire. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir constituer des associations en loi 1901 quand même,
oui.
Et les cultes seront mis à la disposition des fidèles pour célébrer le culte catholique.
Ah, c'est ça, oui. Oui.
Mais pendant toute la période, c'est-à-dire jusqu'à la Première Guerre mondiale, si on peut dire, oui. On est dans une situation de fou artistique.
C'est ça, oui. Ah, d'accord. Bien, merci pour cette précision. Enfin bon, qu'on arrive à ça finalement, et c'est encore sous ce régime-là que vit l'Église catholique en France au début du XXIe siècle, ce qui est assez amusant et assez cocasse. En fin de compte, comme le notait le document que tu m'as communiqué l'autre jour, il y a 5 ou 6 régimes différents de cultes en France. Il y a les cultes concordataires, donc en Alsace-Lorraine, qui restent sous le régime du concordat de Napoléon. Ça reste encore valable, ça veut dire payé par l'État. Il y a le régime des associations cultuelles que j'ai évoqué là, donc pour juifs et protestants. Il y a le régime des associations diocésaines pour l'Église catholique. Il y a le régime des associations culturelles pour les cultes qui ne sont pas véritablement reconnus comme associations cultuelles. Et puis il y a une possibilité d'association très lâche finalement, qui, à condition qu'on ne dépasse pas un certain quorum de gens, etc., qui se rassemblent dans des maisons privées, des choses comme ça, quoi. Donc finalement, le régime des cultes en France est très complexe. Et donc, bon, ça c'est finalement, si nous revenons maintenant à notre histoire de l'Église catholique, c'est évidemment un conflit majeur entre Rome et la République française, comme tu l'as dit, qui dure jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, par conséquent, qui ne sera résolu que de guerre lasse des deux parties, pourrait-on dire finalement, que lorsque les principaux protagonistes ont disparu de la scène de l'histoire. Oui, à partir de 1918, les relations entre la France et la papauté deviennent meilleures n'importe comment. Et là, donc, il y a une possibilité de voir des choses se résoudre. Dans la péninsule italienne, les choses ne vont guère beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Les relations sont bloquées entre le pouvoir italien, la monarchie constitutionnelle italienne et la papauté à cause, justement, de la question de la souveraineté sur la ville de Rome, et notamment le palais papal, qui était le palais du Latran, est devenu le palais du président du premier ministre après la République. Quand la République s'instaurera, deviendra le palais du président de la République, l'Élysée, si vous voulez, romain. Et finalement, le pape est obligé de se réfugier au Vatican, où il se considère, comme nous disions, en prison, en exil. Le conflit va durer jusqu'en 1929, ça veut dire jusqu'à l'avènement du fascisme de Mussolini. Et là, donc, vont être signés en 1929, entre la papauté et Mussolini, ce qu'on appelle les accords du Latran, au terme desquels est constitué, dans le périmètre de l'église Saint-Pierre de Rome, des palais épiscopaux qui le jouxtent, des musées, des jardins, enfin, une enclave en quelque sorte extraterritoriale qui aura le statut d'État indépendant, l'État du Vatican, l'État de la cité du Vatican. Pour aider le pape à accepter ce mini-État, Mussolini accepte aussi de verser au nom de l'État italien à la papauté une somme considérable, qui va lui permettre de faire des investissements très importants dans différents secteurs en pointe, et qui va ainsi renflouer pour longtemps les finances papales, les finances du pape, hein, de l'Église catholique. Et aujourd'hui aussi, le Vatican vit pour une grande part sur les intérêts, les opérations financières et boursières, la gestion finalement de ce patrimoine financier qui lui a été légué par l'État italien en 1929 par les bons soins de ce grand chrétien qui était Mussolini, bien entendu. Voilà donc, si vous voulez, pour ce qui concerne cet aspect des choses. En ce qui concerne alors l'aspect proprement théologique, le pape Pie X va aussi condamner ceux qui se livrent à ce type de recherche. C'est ainsi que un certain Loisy, qui était à la pointe de ce mouvement-là, va se trouver excommunié en 1907 par la bulle Pascendi, ou Pascendi, comme disent les Italiens, on prononce le C à l'italienne et non pas comme on fait nous. Puis lui succède donc en 1914 le pape, un nouveau pape, le pape Pie XI, n'est-ce pas ? Et lui aussi va avoir cette même politique. Et il faudra attendre Pie XII en 1950, pour que par la bulle Divino Affluente Spiritu, les théologiens catholiques soient autorisés à faire une lecture libérale de la Bible. Ce qui est le cas quelques années plus tard, en 1953, avec l'apparition de la Bible de Jérusalem, première édition de la Bible de Jérusalem, qui justement va être au dernier cri, qui se voudra toujours au dernier cri de l'exégèse libérale et moderniste. C'est ce même pape qui, en 1950, publiera le dogme de l'Assomption. Et plus tard, c'est le pape Paul VI qui proclamera Marie, mère de l'Église. Donc là, il y a tout un ensemble de dérives aussi sur le plan doctrinal qui vont aller justement de plus en plus loin. Et bon, voilà, si vous voulez, en gros, pour ces points-là. Maintenant, nous allons aborder un autre chapitre, alors pas très glorieux, celui justement de l'histoire de la papauté entre les deux guerres, enfin pendant les deux guerres, au début de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le Vatican est non seulement une puissance spirituelle, mais également une puissance politique. C'est la compréhension que le catholicisme a de lui-même. Il pense qu'il est appelé à régner sur les âmes, mais aussi sur les corps, la double couronne des papes, n'est-ce pas, la couronne spirituelle et la couronne temporelle, ce qui a fait problème au Moyen-Âge, au moment justement des querelles entre les papes et les empereurs dont nous avons parlé tout à l'heure. Et la politique vaticane, parce que la politique vaticane est hantée par le souvenir du Saint-Empire romain germanique et par les croisades. Et à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, la politique vaticane avait deux axes politiques très forts. Trois même, pourrait-on dire. Premièrement, reconquérir l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord, passer au protestantisme. Pour cela, en infiltrant des catholiques. Et au XXe siècle en particulier, il y aura l'arme de l'immigration, de deux grands centres en particulier, l'Irlande, dans laquelle nombre de catholiques sont persécutés par Londres, hein, ce qui en même temps est une région des plus pauvres d'Europe, ce qui fait que nombre d'Irlandais traversent l'Atlantique et vont s'établir aux États-Unis, ce qui contribue à catholiciser les États-Unis. Même chose en Allemagne, en utilisant les États, les Länder du Sud de l'Allemagne, qui sont en majorité catholiques, pour contrecarrer la Prusse protestante. Bon, autre foyer d'immigration en direction des États-Unis, c'est l'Italie elle-même, et notamment le sud de l'Italie, qui est la région la plus pauvre du pays, et qui fait aussi que beaucoup d'Italiens du Sud sont amenés à s'expatrier aux États-Unis. Ensuite, de déstabiliser, si possible, sur le plan politique, les puissances protestantes. Deuxième pôle axe de la politique vaticane, la France laïque. Nous en avons parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Troisième axe, l'orthodoxie. Reconquérir la Russie orthodoxe a toujours été le rêve de la diplomatie vaticane jusqu'à nos jours. Et automatiquement, l'essentiel des activités de la diplomatie vaticane va s'exercer dans la région des Balkans, parce que la région des Balkans est la zone de contact entre justement le catholicisme et l'orthodoxie. Et vous savez, la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle va être essentiellement dominée sur le plan politique, de la politique générale, par la question des Balkans. Les Balkans, c'est-à-dire grosso modo l'actuelle Yougoslavie, la Grèce, la Bulgarie, l'Albanie, enfin tous ces pays-là, tous les pays du sud-est de l'Europe, quoi, hein, ont été conquis par l'islam, la deuxième vague islamique à partir de 1517, lorsque les Turcs ottomans ont été arrêtés aux portes de Vienne. On a été donc à deux doigts là de voir l'Europe entière submergée par l'islam. Et le 19e siècle a vu une véritable reconquête des Balkans par la chrétienté. Et notamment, il y avait deux grands empires qui se sont partagés les Balkans au XIXe siècle. L'Empire russe, qui voyait dans ses populations des frères de race, puisque c'était essentiellement des Slaves qui vivaient dans ces régions. Et puis l'Empire austro-hongrois, l'Empire autrichien, si vous préférez, qui était un empire composé d'une mosaïque de peuples, finalement, et qui était un empire centre-européen, contribuant à ce qu'on appelait à cette époque-là l'équilibre européen, et qui, depuis la perte de la Prusse après la bataille de Sadova en 1866, lorgnait essentiellement en direction des Balkans. Donc il y avait conflit entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe pour dominer les Balkans. Les Balkans dont l'islam avait été plus ou moins chassé, vous savez, c'est le réveil de la Grèce, l'épopée de la libération de la Grèce, se libère également de la tutelle ottomane et musulmane, donc la Bulgarie, le Monténégro, la Serbie, enfin tous ces pays dont on reparle de plus en plus maintenant, quoi, hein, qui s'appuient justement pour ça, qui sont des trop petits pays pour se libérer eux-mêmes, mais qui s'appuient justement sur les empires. La Serbie, par exemple, s'appuie sur la Russie, ainsi que le Monténégro, la Bulgarie. Par contre, la Croatie catholique et des pays comme cela entrent dans l'orbite de l'Empire austro-hongrois. Et vous savez que de cette question des Balkans va naître la Première Guerre mondiale. C'est du conflit justement entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe que va naître la Première Guerre mondiale au sujet justement de la question des Balkans. Bon, je ne refais pas l'histoire qui conduit à la Première Guerre mondiale, la triple alliance, la France qui veut absolument récupérer son Alsace-Lorraine et qui pour ce fait s'allie avec l'Angleterre et avec la Russie contre justement la Prusse et laquelle s'allie avec justement son ancien adversaire l'Empire austro-hongrois et puis ensuite l'Italie, la triplice contre la triple alliance. Bon, vous connaissez tout ça, n'est-ce pas, ou du moins c'est les livres d'histoire vous le racontent, ce n'est pas notre propos ce soir. Mais quel jeu joue le Vatican justement dans tout ce concert extrêmement complexe de la diplomatie européenne pendant cette première partie du XXe siècle? Eh bien, il est évident que le Vatican appuie à fond l'Empire des Habsbourg, qui est finalement la survivance du Saint-Empire romain germanique, contre justement l'Empire russe, contre les orthodoxes, si vous voulez. Et en même temps, dans la mesure où la Russie est alliée avec la France laïque, c'est aussi pour le Vatican une manière de lutter contre la France laïque. Et le rêve du Vatican, c'est le démembrement des Balkans. La création de mini-États dans les Balkans qui permettrait justement, notamment à l'Empire austro-hongrois, de les dominer. Finalement, c'est un rêve qu'elle n'a pas abandonné de nos jours. L'histoire se répète. Et toute la question des Balkans que nous vivons ces temps, avec l'histoire du Kosovo, de la Croatie, toutes ces choses-là, il y a le Vatican au départ. Hein, ça, c'est prouvé, c'est démontré. Le Vatican qui s'appuie avec l'Allemagne, qui s'appuie sur l'Allemagne comme il s'appuyait sur l'Empire austro-hongrois au début du XXe siècle. À cette époque-là, donc, en 1913, se trouve sur le trône de Vienne un empereur qui s'appelle l'empereur François-Joseph et qui, poussé justement par Pidis, s'en prend à la Serbie pro-russe et la Serbie orthodoxe. Le 3 août 1903, le pape qui est élu, donc Pie X, est élu par une majorité d'évêques allemands et est donc un pape pro-germanique. Et ça, ça jouait aussi énormément dans l'élection du pape Pie X. Et voilà la formule que on prononce quand on couronne un pape, quand on lui remet ses trois couronnes. Voilà ce qu'on lui dit: reçois le trône et les trois couronnes, et sache que tu es père de tous les princes de la terre. Voilà ce qu'on dit au pape quand il est couronné jusqu'à aujourd'hui. Et oui, faut le savoir, hein, faut le savoir. Et Pie X choisit comme secrétaire d'État, donc c'est-à-dire le premier ministre du Vatican, un prélat espagnol, germanophile jusqu'au bout des ongles, qui refuse justement tout le modernisme en tant qu'espagnol, cette époque-là, les droits de l'homme, la société civile, la laïcité, etc., et qui professe l'idée que Dieu s'incarne dans l'Église, qu'elle seule est habilitée à dominer et à parler en son nom. Elle a le droit d'imposer sa loi à la société humaine. Voilà ce qu'est au début du siècle la doctrine officielle de l'Église catholique. Elle doit asseoir sa puissance sur le monde entier. Voilà le programme avec lequel est élu Pie X. Et pour ce faire, la doctrine officielle de l'Église catholique, c'est qu'elle ne doit reculer devant aucun moyen. Tous les moyens sont bons si le but est noble. Et le but noble, c'est la domination de l'Église catholique sur le monde entier. Il est une évidence qui n'a pas échappé au petit Père Combes et à tous les anticléricaux du monde, c'est que le catholicisme est clérical et politique dans son essence. Et finalement, cet aspect politique du catholicisme va lui jouer des tours extrêmement négatifs jusqu'à nos jours. Le pape représente le principe d'autorité, d'ordre et de hiérarchie. Et le pape affirme que si l'on touche à la primauté romaine, c'est l'anarchie qui va s'instaurer dans le monde entier. Que elle seule, la papauté, est le garant de l'ordre et de l'autorité. Et c'est pourquoi la diplomatie vaticane, pendant toute la première partie du siècle, va chercher à s'appuyer sur des régimes autoritaires qui ont exactement la même vision. Et elle va soutenir systématiquement tous les régimes autoritaires contre les régimes démocratiques. Ça, si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris à la diplomatie vaticane pendant siècles. Donc, elle va appuyer le fascisme quand il va arriver en Italie, avec Mussolini. Elle va appuyer le franquisme en 1936 en Espagne. Elle va appuyer le nazisme. Et oui, elle va appuyer le nazisme, nous allons le voir, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1933. Hitler arrive au pouvoir dans les fourgons du Vatican. Ça, je vais le démontrer. Elle appuie le régime, l'État français de Pétain. Elle appuie le régime rexiste en Belgique. Etc., etc., etc. Le régime du régent Horthy en Hongrie, tous les régimes autoritaires ont l'appui de l'Église catholique parce que, justement, ils représentent les principes qui sont les siens, le principe d'ordre, de hiérarchie, d'autorité. Et dès le début du XXe siècle, le Vatican a compris que l'Allemagne était la clé de l'Europe, la principale puissance en Europe, et elle a décidé de jouer la carte de l'Allemagne. Pour cela, elle crée un parti. Vous savez que l'Allemagne, au début du XXe siècle, n'est pas du tout ce que la propagande française a présenté, c'est-à-dire un régime si autocratique que ça. C'est une démocratie, c'est une monarchie parlementaire. Et finalement, il y a au moins autant de libertés en Allemagne qu'il y en a en France. Ça, il ne faut pas se laisser berner par... On a fait la guerre 14 au nom de ce qu'on était un peuple libre contre un peuple d'esclaves, mais ça, c'est complètement débile. Bon, la politique allemande se règle dans un parlement, qui est le Reichstag, Et là, pourquoi alors, vous allez me dire, le catholicisme prend-il parti justement davantage pour l'Allemagne que pour la France ? Parce que la France est laïque, tout simplement. Et que l'Allemagne est davantage portée justement vers les idées, même si c'est une démocratie finalement. Elle est davantage portée vers les idées d'autoritarisme que ne l'est la France. Et pour ce faire, le catholicisme crée un parti politique, un parti catholique qui s'appelle le Zentrum, le centre, je ne sais pas comment on dit en allemand, Zentrum, oui. Qui se dit d'ailleurs un parti nationaliste, et qui va donc mener une politique pro-catholique en Allemagne, qui va avoir pour but de promouvoir les intérêts catholiques en Allemagne, malgré le Kulturkampf. Au moment du Kulturkampf, c'est intéressant de noter que la famille royale allemande avait été frappée d'excommunication, ce qui lui faisait une belle jambe puisqu'elle était luthérienne. Mais enfin, ça montre un petit peu où on en était. Pidis envisageait l'extension de cette politique à la Suisse et au monde anglo-saxon. Donc créer des partis catholiques dans ces pays-là qui allaient influencer donc la politique intérieure de ces États. Et somme toute, le pape Pie XI, quand il succède à depuis Pidis déjà, disons, et puis Pie XI surtout, finalement, voit venir une guerre européenne. Et ils espèrent que cette guerre européenne qui va donc voir un affrontement des empires centraux, c'est-à-dire l'empire prussien et l'empire austro-hongrois contre la Russie, ils espèrent que les empires centraux vont l'emporter et que dans les fourgons des empires centraux, le Vatican va pouvoir reconquérir les populations orthodoxes de Russie. Voilà ce qu'a été la politique vaticane avant la Première Guerre mondiale. Et c'est ainsi que le Vatican a poussé à la guerre. La diplomatie vaticane a poussé à la guerre. De manière justement à entreprendre cette reconquête du monde orthodoxe. La guerre serait pour les populations orthodoxes, a dit Imprella, la libération du joug orthodoxe. Pidis meurt le 20 août 1914, c'est-à-dire pratiquement au moment où la guerre va éclater. Il y a une autre manière aussi pour le Vatican d'embêter les Russes, c'est la question des uniates. En Ukraine, il y a un certain nombre de populations qui sont d'origine orthodoxe, qui ont une liturgie orthodoxe, mais qui ont souhaité se rattacher à Rome. L'uniatisme est un phénomène particulier du XIXe siècle. Dans les chrétientés qui étaient séparées de Rome, la diplomatie vaticane parvient à convaincre un certain nombre de membres de ces communautés de reconnaître la primauté de Rome en échange du maintien de leur liturgie, de leur rite, etc. On ne touche pas à leur rite, mais on exige qu'ils reconnaissent l'autorité du pape. Et c'est ainsi que la plupart des églises orientales, jusqu'au début des années 20, se trouvent divisées par les manigances justement des missionnaires catholiques qui parviennent ainsi à rameuter un certain nombre d'entre elles à l'uniatisme. On appelle cette forme-là l'uniatisme. Par exemple, les prêtres ont le droit de se marier, etc. Bon. L'uniatisme, évidemment, va rameuter un certain nombre de communautés ukrainiennes et l'orthodoxie réagit très mal. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, vous parlez des uniates à un pop orthodoxe et il grimpe au mur. Hein. C'est comme si vous agitiez un chiffon rouge sous le nez d'un taureau. Et par conséquent, par ce moyen-là, les uniates sont une sorte de cheval de Troie catholique pour pénétrer justement les États orthodoxes. Vous savez que Jean-Paul II a essayé de rejouer ce jeu ici il y a quelques années, quand il est allé en Russie, en Ukraine, et que pour ces raisons, les responsables et hauts dignitaires orthodoxes ont refusé de le recevoir. Ça a été un fiasco assez retentissant que son voyage en Russie, en Ukraine, parce que justement, la question de l'uniatisme avait empoisonné les choses. Alors, quand Pie X meurt, est élu à sa place un pape qui se nomme Benoît XV et qui lui aussi est un pape pro-allemand et qui va donc mener les choses pendant toute la Première Guerre mondiale. Ça, on verra si vous voulez la prochaine fois. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?